Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Éric Boisset. Aujourd'hui, nous recevons Mohamed Taleb pour parler d'écologie spirituelle. Mohamed Taleb, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric. Bonjour Mohamed Taleb.
Bonjour Lélie.
Vous êtes, en tant que philosophe et historien des idées, particulièrement sensible aux interactions, aux points de jonction entre les disciplines, les philosophies, les spiritualités. Interactions dont vous tentez de rendre compte, que vous tentez aussi de détecter et de mettre en lumière dans vos activités d'enseignement, mais aussi dans les ouvrages que vous écrivez. Vous enseignez l'éco-psychologie, une discipline dont vous allez nous dire quelques mots, j'espère, et l'éducation relative à l'environnement à l'École supérieure en éducation sociale de Lausanne, en Suisse. Vous animez aussi comme conférencier et formateur l'association de philosophie Le Singulier Universel. Et vous travaillez sur les interactions entre écologie, critique sociale, spiritualité et science. Aujourd'hui, tout à fait dans la droite ligne de cet esprit et de vos enseignements, vous publiez aux éditions Arma Artis un ouvrage intitulé « Nature vivante et âme pacifiée », dont je vais donner quand même le sous-titre parce qu'il est très beau, « 7 fois 7 lettres de noblesse de l'écologie sacrée et de l'éco-psychologie ». Donc ça, c'est aux éditions Arma Artis, mais en même temps, vous publiez aussi aux éditions et les bords sang de la terre, l'écologie vue du sud pour un anticapitalisme éthique, culturel et spirituel. En fait, dans ces deux ouvrages, vous parlez de la même chose, mais d'un côté, vous parlez de l'héritage du passé, ça c'est dans Nature vivante et âme pacifiée, alors que dans l'écologie vue du sud, vous parlez du présent, de l'avenir et de la manière dont cette écologie spirituelle qui existe depuis la plus haute antiquité et dont on a quelques textes mémorables, eh bien comment cette écologie spirituelle ou sacrée continue à vivre, à cheminer dans le monde moderne et nous espérons qu'elle continuera à se développer.
Oui, moi aussi.
Alors j'avais récemment, Mohamed Taleb, une discussion avec mon ami Hubert Reeves, et il me disait, mais quel dommage, on a l'impression que les religions, et je pense qu'il parlait surtout évidemment du judaïsme, du christianisme et de l'islam, ne militent pas du tout pour l'environnement, qu'elles n'ont pas une sensibilité à l'environnement, et qu'elles ont plutôt joué un rôle historique assez désastreux sur les questions environnementales. Alors votre livre arrive à point nommé pour nous montrer qu'il y a effectivement dans tous les grands courants de religieux, mais aussi de sagesse, de philosophie, tout un certain nombre de penseurs qui ont vraiment insisté sur le lien profond entre l'homme et le cosmos, l'homme et la nature. Et vous faites dans ce livre, Nature vivante et âme pacifiée, 49 portraits hein, de Plotin à Thoreau, de Ibn Arabi à Tagore, d'Edwige d'Anvers à Jung. Vous nous montrez le lien qu'ont ces spirituels et quelles théories aussi ils ont sur le lien de l'homme et du cosmos. Mais je voudrais d'abord vous poser une question sur le titre. Expliquez-nous ce que signifie, parce que je trouve très beau, « Nature vivante et âme pacifiée ».
En fait, c'est la clé du livre. Lorsqu'on explore effectivement ces quatre termes, « nature vivante et âme pacifiée », la nature vivante, si j'ai insisté sur cet adjectif « vivante », Pour qualifier la nature, c'est vraiment pour montrer que dans cette écologie spirituelle, dans ces philosophies, dans ces théologies, dans ces sagesses qui effectivement remontent à la plus haute antiquité, la nature, l'environnement naturel, ce n'est pas d'abord un ensemble d'objets qui sont posés dans l'espace-temps du monde, et que dans ces approches donc spirituelles et philosophiques et de sagesse, la nature, c'est d'abord un organisme vivant. Et plus que ça, c'est une réalité qui à la fois est matérielle et immatérielle. Et pour pénétrer la nature vivante, eh bien on a besoin, comme dit l'émir Abdelkader, on a besoin de deux contemplations. La contemplation par le biais de ce qu'on appelle les sciences de la nature, qui vont nous offrir un panorama de la nature dans sa concrétude, minérale, végétale et animale. Et puis une autre contemplation, un autre type de science, on parlait des sciences traditionnelles, qui, eux, vont nous faire entrer dans l'âme de la nature. Et c'est tout le thème de l'Antiquité grecque, mais qu'on retrouve également dans la tradition indienne et musulmane et dans d'autres sphères culturelles, c'est le thème de l'anima mundi, c'est le thème de la sophia, le thème de l'âme du monde, la nature est vivante en tant qu'elle a une âme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui domine dans l'écologie internationale, occidentale, et ça tend à s'internationaliser, c'est que la nature n'existe plus, c'est des ressources qu'il faut bien gérer. Et le fait de réduire l'environnement naturel à des ressources, eh bien, ça participe précisément au désenchantement du monde.
Oui, mais vous parliez du désenchantement du monde. Max Weber a bien montré, parce que l'expression est de lui, il a bien montré que ce désenchantement du monde, il n'a pas du tout commencé avec la modernité. Il a plutôt commencé, d'ailleurs, avec le judaïsme, qui a désacralisé le monde, la nature, au profit d'un dieu unique extérieur au monde. Et donc, d'une certaine manière, c'est vrai que les monothéismes ont joué un rôle dans ce désenchantement du monde très important.
Alors, dans mes deux ouvrages, je parle moins du désenchantement comme terme générique du désenchantement capitaliste. Il y a quand même quelque chose de spécifique à la modernité marchande, à la modernité capitaliste.
Non, mais d'accord, c'est une autre formule. Il faut remonter plus haut.
Oui, mais on ne parle plus de capitalisme. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de parler des 500 dernières années, ce qui est déjà un gros morceau pour un historien des idées. Maintenant, il est tout à fait vrai que lorsqu'on décortique les ingrédients de la crise écologique que l'humanité et que la Terre subit, lorsqu'on décortique les ingrédients, il est tout à fait vrai que nous avons des éléments qui sont à la fois liés à la modernité des 5 derniers siècles, vous en avez d'autres qui remontent à certaines pratiques intellectuelles et sociales du Moyen-Âge, et d'autres qui remontent à l'Antiquité grecque, et d'autres qui remontent au judaïsme ou aux traditions bibliques. Mais, par exemple, on peut dire effectivement que la désacralisation de la nature par le judaïsme est un élément, c'est tout à fait vrai, de même que la logique d'Aristote avec son dualisme est un autre élément qui va se coaguler avec d'autres éléments. Et au XVIIe siècle, on a la coagulation de plein d'éléments disparates qui viennent du judaïsme, de la Grèce, du Moyen-Âge et qui, ensemble, vont dessiner le visage d'une nouvelle civilisation.
Bien sûr. Mais avant qu'on revienne d'ailleurs sur votre ouvrage et puis le fait de voir comment des spirituels dans toutes les traditions ont redonné cette notion d'une nature vivante, je trouve qu'il faut insister un tout petit peu plus sur comment les monothéistes l'ont désacralisé. Parce que je trouve que c'est quelque chose de très important. Et notamment, je crois que ce qui s'est passé avec l'avènement du judaïsme et qui a été suivi par le christianisme et l'islam sur cette question-là, Max Weber montre qu'en fait, le monde a perdu son aura magique. C'est les mots qu'il explicite, son aura magique, parce que dans un monde pré-monothéiste, on considère justement que, comme vous le disiez tout à l'heure, la nature est vivante, c'est-à-dire qu'il y a une part invisible qui l'anime. Mais à partir du moment où on considère dans le monothéisme que le seul invisible qui existe vraiment, c'est Dieu, c'est une transcendance absolue, du coup, effectivement, le monde naturel devient simplement objectivable d'un point de vue physique. Ce qui fait que la nature, dans le cadre des monothéistes, ça devient les arbres, les fleurs, les plantes, le minéral, la biologie, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc la première désacralisation de la nature, c'est les monothéistes qui l'ont opéré. Et ce qui fait qu'après, il y a des contre-courants au sein du monothéisme qui vont réopérer ce réenchantement du monde, mais ce sont des contre-courants théologiques, ce n'est plus la théologie majeure.
C'est une hypothèse historique, d'autres existent, qui est de dire que sur la question de l'écologie et de la perception du cosmos vivant, le clivage ne passe pas entre les polythéismes et les monothéismes. C'est un faux procès qui a été notamment porté à la fin des années 60 par des écologistes comme Lynn White, qui considéraient que les monothéismes sont dans leur essence responsables, ou en tout cas co-responsables, de la crise écologique, et que les polythéismes ou les traditions asiatiques, enfin d'Extrême-Orient plutôt,
oui, bien sûr,
elles sont indemnes de toute responsabilité. En fait, on sait, si on essaie d'avoir une approche historique globale, et si on veut vraiment aller sur ce terrain-là, c'est au néolithique qu'il faut remonter. Or, le néolithique a été la période fondatrice des polythéismes. Or, on sait que la révolution néolithique, il y a 10 000 ans, a été un premier arrachement de l'humanité
à son environnement. Donc, je suis d'accord.
Et là, il n'y a pas de polythéisme et de monothéisme.
Mais il y a une forte accélération, effectivement, avec le monothéisme.
Jusqu'à un certain point. Parce qu'en même temps, si on prend l'expérience médiévale du christianisme européen, on n'a pas du tout cet arrachement. On a plutôt l'embellissement de la nature. Le rôle des moines, la dialectique du moine et du jardinier au Moyen-Âge, elle était centrale dans les campagnes. On n'était pas du tout dans un rapport de prédation. On était dans un rapport d'embellissement.
Oui, mais la nature n'a plus une âme.
Au Moyen-Âge, la nature, elle a une âme.
Pas dans la théologie catholique, en tout cas.
tout dépend de quoi on parle lorsqu'on parle de... Vous voyez, si on parle de la scolastique de Thomas d'Aquin, oui.
Ce qui a dominé, effectivement, toute la théologie du
Moyen-Âge. Mais Albert le Grand ne disait pas la même chose. Toute l'école des Dominicains qui vont venir après ne disait pas la même chose. Jean Scott Lérigène ne disait pas la même chose. Tout le mouvement des Béguines ne disait pas la même chose. On a, sans parler de François d'Assise, bien évidemment, heureusement, tout ne se réduise pas à la scolastique thomiste.
Oui, et vous expliquez aussi très bien dans votre livre que c'est la même chose en islam. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une... un mouvement de fond dans la pensée musulmane qui va dans le sens que, dans l'idée que la nature est sacrée parce qu'elle est habitée, en fait, du souffle divin, de part en part.
C'est intéressant, c'est les mots utilisés par les premiers, voilà, les mots fondateurs, les mots d'origine. Par exemple, si on prend le cas de l'islam, c'est le même terme utilisé en arabe, le mot ayat, c'est le même terme utilisé pour désigner trois réalités différentes. Les versets du livre saint. Donc on peut parler d'une sorte de révélation surnaturelle. C'est en même temps les phénomènes de la nature, les phénomènes cosmiques, un brin d'herbe, un coucher de soleil, une brise, voilà. Ce sont également des ayats. Et puis, les archétypes qui sont à l'intérieur de l'âme, les puissances de l'âme. Voilà. Et on a des versets du Coran qui disent que le croyant doit aller à la rencontre à la fois des signes, qu'on traduit souvent ayat par signe, mais c'est aussi le merveilleux, c'est aussi le sacré. Donc on a là vraiment une articulation centrale aussi dans le Moyen-Âge européen chrétien, une dialectique entre les deux grandes révélations, le livre saint révélé et puis la nature elle-même considérée comme un livre saint. Ça, c'est aussi central dans les cultures médiévales, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Pour moi, le véritable clivage, si on rapporte ce thème à la crise écologique d'aujourd'hui, le véritable clivage, il remonte au XVIIe siècle, avec des figures comme Descartes, comme Francis Bacon, comme Galilée et d'autres. Henri Mersenne, qui est pour moi le plus important, parce que Henri Mersenne, qui était un religieux, ce qui est intéressant, c'est que une partie du christianisme a participé à la modernité capitaliste.
Ce que je voulais dire aussi, parce que Descartes, il ne vient pas de nulle part.
Mais ce n'est même pas que Descartes qui compte, c'est vraiment Henri Mersenne, qui était religieux, le père Mersenne, qui était l'éminence grise de René Descartes, qui était l'homme des réseaux, c'était celui qui faisait le lien entre Descartes, Galilée, Gassendi, il a traduit Galilée. Mersenne, c'est quelqu'un d'extrêmement important, il est inconnu dans l'histoire de la philosophie, et Mersenne a été l'assassin de l'âme du monde.
Bien sûr, mais j'en reviens à Descartes, c'est quand même très intéressant de voir le rôle, on sait très bien, le rôle énorme qu'il a joué dans l'avènement d'une modernité philosophique, mais c'est justement la coupure profonde qu'il établit entre le monde de l'âme qui vient de Dieu et le corps qui vient de la matière, et pour lui il y a un dualisme très profond.
Absolument.
Et ce dualisme est dramatique, c'est là-dessus, et c'est contre ce dualisme que Spinoza va réagir très fortement, en réhabilitant la nature comme un lieu où le divin est présent de manière invisible. C'est-à-dire que je pense qu'il y a très vite une réaction contre Descartes, mais qui va être minoritaire en philosophie, et ce qui va l'emporter, c'est plutôt la technoscience. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense que Descartes est l'ultime héritier de cette théologie qui sépare radicalement, effectivement, le monde de la matière, qui n'est pas animé, et le monde de l'âme, qui vient directement de Dieu, et qui, donc la nature n'est pas vivante. Pour en revenir à votre titre, nature vivante, vous nous avez expliqué ce que ça voulait dire, c'est-à-dire une nature qui est à la fois visible et invisible, et âme pacifiée.
Alors, la notion d'âme pacifiée, c'est une notion musulmane, coranique, et qui postule l'existence de trois âmes, ou de trois niveaux de l'âme, en quelque sorte, et qui correspondent, en fait, à une âme qu'on qualifie quelquefois de charnelle, qui est l'âme des passions, qui est une âme qui tire vers le bas, une âme dont on peut dire qu'elle est vraiment la prison du corps, et inversement, que le corps est la prison de cette âme. Et il faut tout faire pour que l'âme dépasse cet état-là passionné, des adhérences inessentielles, en quelque sorte. L'âme doit devenir combattante. Elle doit se mettre en mouvement. Elle doit s'animer. Elle doit accueillir une âme, en quelque sorte. L'âme doit se mettre en mouvement. Elle doit se tourner vers son Seigneur. C'est tout le thème de l'épectase chez les pères de l'Église, le retournement de l'âme, de la métanoïa, qu'en islam, on appelle le grand djihad. Donc, c'est vraiment le retournement de l'âme. En vue de quoi ? En vue de la contemplation de son Seigneur. Et lorsque cette âme contemple son Seigneur, qui n'est pas autre chose que son principe, elle accède à un état de paix. Et l'âme pacifiée, c'est l'âme qui est sereine face au monde. Ce n'est plus l'âme qui est déchirée par les passions du corps, ce n'est pas non plus l'âme combattante, c'est une âme en paix. On peut dire d'une certaine manière, si on veut faire de la théologie comparée, que ça renvoie assez à la notion d'éveil qu'on a dans les traditions dans les traditions de l'Inde. Une âme éveillée, voilà, et l'âme pacifiée. J'ai trouvé ça assez beau, pas simplement sur un plan lyrique ou stylistique, mais assez juste parce que le fil conducteur de ce livre, ce qui fait la cohérence de tous ces auteurs qui appartiennent à des traditions et à des disciplines différentes, c'est que tous affirment l'existence d'un continuum entre la vie intérieure, la psyché, l'âme donc, et puis la nature vivante. En fait, il y a une correspondance entre l'âme personnelle et l'anima mundi, l'âme du monde. Et c'est précisément parce qu'il n'y a plus de continuité entre l'âme du monde et l'âme personnelle que l'âme personnelle n'a plus de lien avec le cosmos vivant. Et puis l'âme du monde tend à mourir parce qu'elle n'est plus représentée en quelque sorte dans l'humanité.
Et vous citez d'ailleurs à ce propos un des plus grands théologiens mystiques, et vous ajoutez philosophe de l'islam, Abu Hamed al-Razali, donc, qui a vécu au 11e, 12e siècle, il est mort en 1111. Alors je ne sais pas s'il faut l'appeler philosophe, hein, puisque lui-même il a totalement rejeté la philosophie quand il est entré dans la mystique, mais enfin... vous citez un assez long passage de lui que je voudrais partager avec nos auditeurs parce que ça résume tout à fait tout ce que nous venons de dire, en fait, de ce rapport, de ce continuum, en fait, entre le macrocosme et le microcosme, sachant que pour l'homme, il faut réaliser cet épanouissement spirituel qui est donné, en fait, à la nature, mais qui, chez l'homme, doit être réalisé par un travail de volonté, comme vous venez de le dire. Pour les mystiques, Dieu fait parler chaque atome des cieux et de la terre de son omnipotence de façon telle qu'ils entendent comment tout proclame sa sainteté, chante ses louanges et confesse sa propre impuissance. Et ce, dans un langage parfaitement clair. Ce langage sans lettres ni sons n'est pas perçu par ceux dont l'ouïe est dépourvue d'un organe approprié. Je ne veux pas dire l'organe extérieur qui ne s'occupe que des sons et que les hommes partagent avec l'âne. Je ne tiens pas compte de ce que les bêtes ont aussi en partage, mais je veux dire une ouïe qui perçoit des paroles dépourvues de lettres et de sons, et qui ne sont ni arabes, ni étrangères. Si quelqu'un dit « c'est une chose merveilleuse et difficile à comprendre », décris-moi sa nature, et comment et par quoi ces atomes communiquent, comment ils chantent ses louanges, proclament sa sainteté, et comment ils confessent leur propre impuissance. Il faut savoir que les mystiques ont une conversation secrète avec chaque autre atome des cieux et de la terre. Une conversation sans restriction ni limite, car elle consiste en paroles qui proviennent de la mère des paroles de Dieu, laquelle est sans limite. Elle s'occupe des secrets du monde visible et du monde invisible. Or, la divulgation des secrets est blâmable, et la poitrine des nobles est le tombeau des secrets.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar.
Quelle est la figure de l'humain qui est à l'œuvre dans cette écoute de la nature vivante? Vous disiez juste avant que René Descartes a inauguré la modernité en Occident, c'est tout à fait vrai, avec pas simplement un certain usage de la science et une certaine compréhension du monde, mais aussi avec une certaine méthodologie dans l'approche du monde, et puis aussi une certaine définition de ce qu'est l'humain. Et ce qui est intéressant, c'est que avant René Descartes, pendant 250 à 300 ans, l'Europe et toute la Méditerranée a été traversée par un grand mouvement qu'on appelle la Renaissance, et qui souvent est réduit à une petite phase de transition entre le Moyen-Âge d'un côté et puis les temps modernes. Et le problème, c'est que lorsqu'on explore la Renaissance, on s'aperçoit qu'il y avait deux grandes Renaissances. Et lorsqu'on dit que la Renaissance a été la période de l'humanisme, en réalité, il y avait deux grands humanismes qui se sont affrontés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Descartes prolonge un certain humanisme, un humanisme dans lequel le propre de l'humain, c'est son cogito, c'est sa conscience personnelle, rationnelle. Tout le reste n'est que machine.
Alors quel est l'autre humanisme? C'est celui de Pic de la Mirandole?
C'est celui qui est d'ailleurs le premier historiquement, c'est celui qui est né avant la révolution cartésienne et galiléenne. C'est tout l'humanisme néoplatonicien, tout l'humanisme de la théologie mystique, et pas seulement de la mystique, de la théologie mystique, de la philosophie comparée également. Effectivement, Pic de la Mirandole, Marcille Fissin, Nicolas de Cuse, le génial mathématicien humaniste, Robert Flude, les Anglais, Paracels, Dorn, Duval, Agrippa. On a tout un mouvement intellectuel dans toute l'Europe qui considère que l'humain est d'abord un vecteur du cosmos. Il est, je reprends la formule de l'époque, il est homo universalis. L'homme est humain lorsqu'il porte en lui tout l'univers. Une autre formule qui a été dite tout à l'heure, il est macrocosme, c'est-à-dire qu'il est un petit univers. On peut parler en quelque sorte d'un humanisme cosmique pour parler de cet humanisme-là. Cet humanisme cosmique, il a été porté par ces érudits, qui étaient en même temps de grands traducteurs.
La figure picturale de ça pourrait être l'homme de Vitruve de Léonard de
Vinci. Tout à fait, absolument. C'est l'une des figures. Et d'ailleurs, Léonard de Vinci a beaucoup parlé de l'homme universalis en italien, l'homme universale. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement des milieux intellectuels. Parce que cette conception humaniste et cosmique, elle est aussi vécue dans les campagnes, à travers tout un mouvement de femmes, qui étaient les guérisseuses, qui étaient celles qui connaissaient les plantes, leurs vertus, avec en même temps une approche de type magique, ou presque chamanique. Et Paracels disait lui-même que tout ce qu'il avait appris, il le devait aux sorcières. Donc là, on a vraiment une dialectique entre des pôles d'érudition, l'Académie de Florence, Pic de la Mirandole et d'autres, et puis des mouvements de femmes dans les campagnes. Et bien, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, entre 1550 et 1650, l'Occident va connaître l'un des plus grands massacres de son histoire. On peut dire d'une certaine manière que c'est un acte symbolique de la naissance du capitalisme, c'est le massacre des sorcières. Près de 100 000 femmes ont été tuées. Pour un procès Galilée, on a des dizaines de milliers de procès de femmes dans les campagnes. Et tous les travaux d'anthropologie juridique qui ont été faits maintenant depuis quelques années montrent la convergence de deux argumentaires dans les procès-verbaux. On a d'un côté un argumentaire religieux, ecclésial, on devrait plutôt dire inquisitorial, qui est de dire que ces femmes dans les campagnes, elles sont plutôt du côté de l'hérésie et elles ont des liens avec les démons lors de certains rites un petit peu compliqués.
Satanique, oui.
Voilà. Alors qu'en réalité, si on reprend les mots de l'anthropologie de l'imaginaire, elles ne faisaient que converser avec ce qu'on appelle les esprits de la nature. Donc ça, c'est un premier type d'argument. Et puis le deuxième argument, qui est celui des cartésiens ou des galiléens, qui est de dire que ces femmes-là colportent des superstitions. Et que les véritables savoirs sont les savoirs, ils ne le disent pas, mais c'est un petit peu la même chose, sont des savoirs masculins, abstraits, académiques, qui doivent sortir des villes. Et ce massacre des sorcières a été un événement fondamental dans la psyché d'Occident. Et on n'a pas encore pensé ce massacre-là. On n'a pas encore pensé ce massacre. Et pour moi, c'est un acte de naissance. Bien évidemment, pas de la modernité dans ce qu'elle a de meilleur, comme le tenu du sujet, mais de la modernité dans ce qu'elle a de pire, c'est-à-dire l'arrachement de l'humanité à son sol natal et à son espace de vie.
Alors, comme vous l'avez rappelé, cette première modernité, c'est à travers la Renaissance.
On peut dire, oui,
première modernité qui a précédé les Lumières et Descartes. Cette première modernité, elle était d'inspiration néoplatonicienne.
Tout à fait.
Ce serait intéressant que vous nous disiez un mot, parce qu'il y a de nombreux philosophes néoplatoniciens dans votre livre. Vous nous disiez un mot, justement, quel est le fondement même de la théorie néoplatonicienne qui organise, qui pense ce lien entre l'homme et la nature.
Et qui circule d'un univers religieux à l'autre en même temps.
Tout à fait.
Et ce qui est intéressant, c'est que le néoplatonisme, c'est un courant philosophique qui traverse le polythéisme et les monothéismes.
Absolument.
Voilà, ce qui est intéressant pour montrer que les clivages ne sont pas entre les deux. Alors, le néoplatonisme, bien sûr, eux ne se définissent pas comme néoplatoniciens. La formule vient du 19e siècle pour parler de cette école-là. On devrait même, de façon plus juste, parler de néo-pythagoriciens. En fait, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une école de pensée dont l'inauguration commence avec Plotin, donc un Égyptien au IIIe siècle, et qui va se terminer dans les années 530-540 avec Damasus. De quoi il s'agit ? Il s'agit d'une école qui est d'abord une école de symbiose, une école de synthèse. Elle fait à la fois la synthèse entre les meilleurs des écoles philosophiques de la Grèce antique. Il y a à la fois Pythagore, Platon bien évidemment, mais Aristote est aussi intégré. Un certain nombre de traditions stoïciennes sont aussi intégrées. Donc on a déjà, avec le néoplatonisme, une sorte de bricolage philosophique de très haute volée, de très haute tenue. Voilà. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils sont à la fois néoplatoniciens, mais aussi néopythagoriciens. Et puis, deuxième aspect dans le néoplatonisme, c'est que ça a été une puissante synthèse, je dirais, inter- et transculturelle. C'est-à-dire que c'est à la fois la tradition grecque et toutes les traditions du Proche-Orient. À commencer par Jean Blic, qui va se réclamer de toute la tradition égyptienne, syrienne et chaldéenne, comme on disait, jusqu'à Damasus. Et il suffit de voir le nom des personnes, Damasus et Damas, Syrianus. En fait, il y a un enracinement syrien, au sens de la Grande Syrie, de toute cette école. Donc on est à la fois dans une synthèse des écoles philosophiques grecques et dans une symbiose culturelle. Alors, le fond de cette école, c'est de nous dire, en gros, trois choses, c'est affreux, ce n'est pas des choses, d'offrir trois perspectives. Une perspective qui, pour moi, est fondatrice de la liberté. C'est l'affirmation de la transcendance absolue d'un principe divin dont on ne peut rien dire. C'est dans le néoplatonisme que ce qu'on appelle la théologie négative est née, l'apophasis, c'est-à-dire qu'on ne peut approcher du divin que par la négation, en enlevant du langage tous les concepts rationnels que nous allons élaborer. Il ne peut pas y avoir de logos du théos. Le divin, le théos, est au-delà de toute détermination. Ce qui est intéressant, c'est que les courants mystiques dans les monothéismes viennent de là. On sait que la grande voie de la mystique chrétienne commence par le pseudo Denis l'Aréopagite. On sait aujourd'hui que Denis l'Aréopagite, père de l'Église d'Orient, était un disciple de Proclus, l'un des grands néoplatoniciens païens. On a la même chose avec la Kabbale au Moyen-Âge, notamment dans le judaïsme de Provence, du XIIe et du XIIIe siècle, qui est largement d'inspiration néoplatonicienne. Et puis on a aussi la même chose dans la tradition musulmane, où le néoplatonisme va être la principale école de pensée qui va structurer le champ mental du monde musulman. Donc la transcendance absolue. Deuxième élément, qui est paradoxal par rapport à ce premier principe qui est celui de la transcendance, c'est d'affirmer la pleine immanence de Dieu, ou des dieux, ou du divin. La pleine immanence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cosmos est vivant, le cosmos a une âme, l'univers a une âme, et qu'il y a en même temps une solidarité entre tous les éléments du cosmos. Justement, le cosmos et pas chaos. Et la différence entre le cosmique et le chaotique, c'est que le cosmique, c'est une unité organique. Il y a des liens entre les éléments. Alors que dans une vision chaotique, tout ce qui existe, existe de façon solitaire. On peut parler donc d'une cosmologie chez les néoplatoniciens, d'une physique et même d'une botanique. Ça, c'est des auteurs ultérieurs qui vont plutôt travailler cet aspect-là. Et puis le troisième aspect dans le néoplatonisme, et qui, moi, me paraît fondamental aussi, c'est de nous dire la chose suivante. Les Grecs, et ça a été la grande leçon des Grecs, nous ont dit que tous les humains, au niveau de leur langage, hein, au niveau de leur production littéraire, de leurs œuvres, tous les humains pouvaient partager les œuvres littéraires dans deux grandes familles. Ce que les Grecs nous ont dit, et les néoplatoniciens ont insisté dessus, je pense notamment à Proclus, c'est que ces deux familles langagières, dont je vais dire de quoi elles sont faites, elles sont égalitaires, elles sont complémentaires, et en plus de ça, elles disent toutes les deux la vérité. Alors, dans la première famille langagière, c'est le logos qui est le maître mot, c'est tout ce qui relève de la connaissance rationnelle, de la science, de l'étude. On mettra dedans les éléments de géométrie d'Euclide, ou bien le dernier livre de physique quantique, ou bien la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout ce qui relève de la pensée intelligible. Et puis, dans la deuxième famille langagière, bon, bah, si on est chez les Grecs, on aura plutôt l'Iliade, l'Odyssée. Si on est en Inde, on aura le Mahabharata.
C'est-à-dire le mythe, la poésie.
Absolument. Et on peut dire que la première famille, c'est le logos, la deuxième famille, c'est le mythos. Et qu'il y a une dialectique entre le logos et le mythos. Et que les néoplatoniciens nous ont enseigné, notamment Proclus, mais d'autres aussi, que le mythos était une voie de connaissance du monde tout aussi juste et légitime et vraie que la voie du logos. Et on peut dire d'une certaine manière, ça c'est ce que dira Jung 2000 ans après, c'est qu'un individu ou bien une société est équilibrée lorsqu'il y a en soi, assumé positivement, ces deux polarités du logos et du mythos. On peut dire d'une certaine manière que depuis 500 ans, nous vivons dans un régime où le logos a pris tous les pouvoirs et que l'imaginaire, la folle du logis, tend à être réprimée. Elle n'est pas en tout cas une voie de sens. Et que lorsqu'on veut admettre la légitimité de l'imaginaire, c'est souvent sur le mode du divertissement, du loisir. Mais certainement pas comme chemin de connaissance. Et il faut attendre toute la révolution de Jung, tous les travaux de Gilbert Durand, de Gaston Bachelard, d'Henri Corbin et d'autres pour réhabiliter le monde des images qui n'est pas un espace de fantasme, mais qui est aussi un reflet de la réalité.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar.
Pour en arriver alors justement au présent, aujourd'hui de l'écologie, est-ce que vous diriez que justement, alors vous avez fait un livre sur l'écologie vue du Sud? Mais avant d'arriver au Sud, est-ce que vous diriez donc qu'en fait, c'est peut-être l'impasse dans laquelle s'est engouffrée l'écologie vue du Nord, c'est-à-dire qu'elle a réduit l'ambition ou l'élan écologique, écologiste, justement au pur logo, c'est-à-dire, comme vous disiez, étudier scientifiquement la nature, les ressources, savoir comment il faut traiter tout cela, voilà, bien les gérer, et donc en oubliant totalement la dimension du mythos, qui permet de réinsérer l'idée de sacré dans notre vision même de la nature.
C'est tout à fait vrai. Quand on parlait tout à l'heure de cette bataille de paradigme à l'époque de la Renaissance, entre l'humanisme cosmique d'un côté et puis on va dire l'humanisme cartésien de l'autre, pour faire vite, ce qui est intéressant de voir, c'est que même si l'humanisme cartésien a gagné la partie, l'humanisme cosmique a continué à circuler dans la culture aux marges. mais il a continué à circuler. Et on a eu périodiquement des courants culturels, philosophiques, artistiques, qui vont lever l'étendard de l'humanisme cosmique.
Goethe, comme le romantisme, bien sûr. Vous citez de nombreux auteurs issus du romantisme.
Goethe et le romantisme, tout à fait. Ça a été la grande école, la naturphilosophie allemande, qui a été... Mais aussi les romantiques aux États-Unis, Henri David Thoreau, ou bien tout le romantisme anglais, de William Blake jusqu'à Shelley et Keats.
Même en France, avec Victor Hugo.
Oui.
Tout parle, tout est plein d'âme.
Oui, mais peut-être que la différence, ça a été bien rapporté par beaucoup d'historiens du romantisme, comme Georges Gustav, la différence, c'est qu'en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, le romantisme, c'est un mouvement global, qui n'est pas que littéraire et poétique. Mmh. Il est également scientifique, il est également éthique, il est aussi théologique. On a eu en Allemagne une théologie romantique. Mmh. On a eu des philosophes. Alors que dans le cadre français, le romantisme a souvent été une école littéraire.
Presque poétique.
Essentiellement. Mmh. On a eu Bergson qui partageait l'essentiel du romantisme, mais il ne s'est jamais réclamé du romantisme philosophique. Donc voilà, donc la France est un petit peu le parent pauvre du point de vue de l'amplitude. Mais la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, dans les années 20 jusqu'aux années 60, incarne tout ce mouvement-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, avec Jung, c'est toute la reprise de l'alchimie. Et l'alchimie a été une grande philosophie éco-spirituelle. On parlait de la Renaissance avec Pigla Mirandole et Paracels, c'était tous des férus d'alchimie et de magie. Et c'est vrai que cette écologie, on va dire holistique, elle a circulé aux marges de l'Europe, aux marges de la culture et de la science. Et on a, voilà, de temps en temps, des renouveaux de la chose. Moi, même s'il n'a pas d'horizon transcendantaliste, quelqu'un comme Edgar Morin, je le vois assez bien cousiner avec cet humanisme cosmique, ne serait-ce que pour une raison. C'est que la grande différence entre l'humanisme cartésien et l'humanisme cosmique, c'est que l'humanisme cartésien nous dit que le sens, il est dans l'objet. Alors que les humanistes cosmiques nous disent que le sens, il est dans le lien. Et c'est vrai que toute la pensée systémique avec Edgar Morin a été une pensée des liens, du lien social et puis du lien écologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, se réapproprier les liens. C'est pour ça que Max Weber a parlé de désenchantement du monde. Moi, j'ai pu parler à une époque de réenchantement du monde. Je pense que c'est encore insuffisant. Il vaut mieux parler de réenchantement de notre rapport au monde.
Bien sûr.
C'est notre relation au monde qui doit être réenchantée et pas le monde en tant que tel.
Bien sûr, c'est redécouvrir un lien que nous pouvons avoir avec une nature vivante. Et du coup, c'est ce lien qui donne du sens et qui permettrait d'avoir un autre rapport à notre environnement.
C'est le lien qui donne du sens et ce n'est pas l'objet. Mmh. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est cette pensée-là, c'est toute la pensée des alchimistes, de Paracels, de Jacob Bohm, qui nous disait que finalement, ce qui compte, ce sont les correspondances.
Mmh. Bien sûr.
Entre les planètes, les couleurs, les états d'âme, les paysages de la nature, les relations, les correspondances.
Mais ce qui est le fondement même de ce qu'on appelle la pensée ésotérique, qui est un contre-courant de la pensée dominante occidentale, mais à la fois chrétienne et moderne. C'est-à-dire tout au long du christianisme dominant, qui est plutôt, entre guillemets, positiviste de ce point de vue-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une théologie dominante qui récuse cette notion de nature vivante. Et effectivement, en parallèle, il y a eu toujours des courants mystiques, mais aussi des courants dits ésotériques. Là, vous parliez de l'alchimie et autres, qui se sont inspirés de l'Antiquité pour maintenir cette notion d'une nature vivante. Donc effectivement, on voit bien que ces courants-là ont toujours existé. Ils sont très minoritaires encore aujourd'hui. Et pourtant, j'ai envie de dire, on peut tous faire l'expérience qu'on est bouleversé par la nature. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans la nature, presque tout le monde a un jour vécu des moments d'une émotion, on se sent dépassé, on est pris par quelque chose qui n'est pas simplement le sentiment qu'il y a une jolie harmonie, c'est plus que ça. Moi, j'ai vécu un sentiment de sacré en étant dans des paysages forts. Et donc, je crois que c'est une expérience qui, sans la théoriser, si vous voulez, sans avoir une grande conception philosophique, chacun d'entre nous peut ressentir que la nature est habitée par quelque chose.
C'est ce que Romain Rolland appelle la sensation, le sentiment océanique. C'est une expérience que l'on peut faire. Dans mon livre, j'ai évoqué pour certains des personnages ce type d'expérience. Mais ce que j'ai privilégié, c'est la problématique du sens. C'est-à-dire qu'avec le désenchantement, notamment depuis le 19e siècle, depuis les Lumières en fait, dans le cadre du désenchantement, on a eu une sorte de drame intellectuel, de drame métaphysique, qui est la confusion entre deux fonctions de la conscience qui ont été regroupées dans la même catégorie, qui est la raison et l'intellect. Lorsqu'on fait un sondage sauvage autour de soi et qu'on demande aux gens, on leur donne une dizaine de mots, sentiments, émotions, conceptuels, rationnels, intellectuels, spirituels, etc. Pareil, ouais. Eh bien, il y a de grandes chances, ou de malchances plutôt, pour qu'ils mettent dans le même groupe conceptuel, intellectuel, rationnel. Ouais. Alors que dans la philosophie grecque, dans la philosophie musulmane, dans la philosophie médiévale...
Tout à fait, ratio et intellectus, c'est deux concepts complètement différents.
Ben justement, ouais. L'enjeu, c'est que dans tous les personnages dont j'ai parlé dans ce livre, l'expérience de la nature vivante, c'est une expérience qui est à la fois sensorielle, le corps, c'est une expérience en même temps imaginative, on va transformer en image intérieure les perceptions du monde concret, et puis en même temps, c'est tout le thème du Spiritus Mundi, l'esprit du monde. C'est l'idée que le monde a un sens, il a du sens. Et que explorer la relation avec la nature selon ces trois versants, le corps, l'âme et l'esprit, c'est ça qui me paraît
fondamental. D'ailleurs, la contemplation de la nature, c'est par l'intelligence. L'intelligence contemple la nature et pour les Grecs, c'est une des fonctions principales de la vie contemplative. Ça peut être effectivement...
C'est l'intellect. Et on a oublié, Maître Eckhart, dans l'un de ses sermons, disait que l'intellectus, c'est la puissance divine au sein de l'âme. C'est déjà pas mal. Hein. Et elle permet quoi, cette puissance divine? Elle permet à l'humain d'être capax dei, d'être capable de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la raison, dont le job, en quelque sorte, c'est de mesurer le monde selon des quantités. Mmh. Et le fait que l'on ait réduit, que l'on ait confondu les deux, eh bien, ça crée une sorte de distorsion chez des milliers de personnes qui sont dans des quêtes spirituelles et des quêtes de sens, pour qui il y a trop de tête, il y a trop d'intellect, mais pour eux, l'intellect, c'est le...
C'est la raison.
C'est la raison ratiocinante.
Absolument. c'est la raison close dont parlait Edgar Morin. On ne veut pas de ça. Et donc, on va privilégier quoi? Le corps, la sensation, l'émotion. C'est insuffisant.
Mais on oublie qu'il y a effectivement une intelligence contemplative et qui nous permet d'accéder à la profondeur de l'être et du réel. Puisque
tout à fait. En fait, ça permet d'entrer en lien avec l'âme du monde. La pensée alchimique, c'est un exemple d'intellectualité vivante. On n'est pas du tout dans un rationalisme sec. On est au contraire dans une fréquentation avec les quatre éléments, par exemple. Le feu, l'eau, l'air et la terre, à la fois dans leur face sensible et puis en même temps dans leur dimension supraphysique.
Oui, c'est-à-dire, c'est entrer en connexion, mais aussi le penser.
Le penser, pas sur le mode du concept, mais sur le mode de l'image. Et c'est là un défi pour les intellectuels spirituels d'aujourd'hui, c'est de retrouver, moi, une clé de ce qu'on appelait, à la Renaissance, de ce qu'on appelait l'imagination intellectualiste. L'imagination intellectuelle.
Ou l'imagination créatrice, comme on l'appelle chez...
Jung parle aussi de l'imagination créatrice, de l'imagination active, tout à fait. C'est un exercice de la pensée qui, au contraire du concept clos sur lui-même, ouvre aux intelligences du monde. Et on peut le faire. Et lorsqu'on a à la fois l'expérience sensorielle, la vie de l'image, et puis en même temps cette perception intellectuelle, on touche du doigt cette figure qui était l'homo universalis à l'époque de la Renaissance. Ce qui est intéressant, c'est que Léonard de Vinci et les alchimistes parlaient de l'homme universel. Dans la tradition musulmane, on parlait également de Insan el-Kamil, l'homme universel. Donc on a également des figures transculturelles qui passent d'un bassin culturel à l'autre. Et on a aussi la même chose en Inde et dans la tradition chinoise. Un humain qui n'a pas de sens s'il n'est pas médiateur entre le ciel et la terre.
Alors vous avez parlé de Romain Rolland et de l'homme universel.
Sentiment océanique.
Absolument. Donc, évidemment, c'est une très belle perche que vous me tendez pour lire donc un extrait de la vie de Ramakrishna, que vous citez aussi donc, dans votre livre « Nature vivante et âme pacifiée », et dans lequel on voit en effet que ces trois éléments entrent en interaction pour constituer cet homme universel. C'est Ramakrishna qui parle, donc, en fait, sous la plume de Romain Rolland. Mais on entend quand même parler aussi Romain Rolland. Je suis d'un pays de rivières. Je les aime comme des êtres vivants. Et je comprends mes ancêtres qui leur versaient le vin et le lait. Or, de toutes les rivières, la plus sacrée est celle qui sourd à tout moment du fond de l'âme, de ses basaltes, de ses sables et de ses glaciers. Là est la forme première que je nomme religieuse. Elle est commune à l'art et à l'action, aux sciences et aux religions, à tout ce fleuve de l'âme que, de l'insondable et sombre réservoir, entraîne l'irrésistible pente vers l'océan de l'être, conscient, réalisé, dominé. Et de même que l'eau remonte ensuite en vapeur de la mer aux nuées du ciel, qui réalimente le réservoir des fleuves, les cycles de création s'enchaînent sans interruption. Et de la source à la mer, et de la mer à la source. Tout est la même énergie, l'être sans début ni fin, qu'il m'est indifférent qu'on nomme Dieu, et quel Dieu, ou force, et quelle force. Fût-elle dite matière, quelle matière est-ce donc qui désigne également les énergies de l'esprit? Des mots, l'essence est l'unité, non pas abstraite, mais vivante, et c'est elle que j'adore, ainsi que les grands croyants et les grands ignorants, qui la portent en eux, conscient ou inconscient.
Alors, il nous reste 7 minutes exactement pour finir cette émission. Je voudrais qu'on dise un mot du second livre que vous publiez, qui s'appelle « L'écologie vue du Sud », avec en sous-titre, comme le rappelait Lily, « Pour un anticapitalisme éthique, culturel et spirituel ». J'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous avez voulu dire dans ce livre et en quoi est-ce qu'il complète votre autre ouvrage « Nature vivante et âme pacifiée ».
Tout à fait. En fait, c'est un rapport au temps. Nature vivante et âme pacifiée, c'est un livre qui renvoie à la mémoire. Mémoire culturelle, artistique, spirituelle, avec des auteurs de l'islam, du christianisme, de l'Inde, du Japon, de la Grèce antique. Donc, un livre de mémoire pour montrer que l'humanisme cosmique a une profondeur historique. Donc, ce n'est pas du tout une...
Et philosophique.
Absolument, une armature philosophique, conceptuelle, et on a des figures de grand mérite. L'écologie vue du Sud est un ouvrage où j'aborde le même thème, dans le fond, sur un mode plus sociopolitique, quoique. C'est-à-dire que je me suis permis, dans ce livre, d'explorer de grandes expériences de militance écologique au Brésil avec le mouvement des Sans-Terre, en Inde avec les Adivasis, les peuples autochtones, aux États-Unis avec les Indiens américains, en Afrique noire avec toute une série d'expériences, notamment au Burkina Faso, en Palestine, et puis dans d'autres contrées du monde. Donc c'est une exploration de l'écologie vue du Sud. Et ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage, c'est en quels sont ces traits singuliers qui la distinguent de l'écologie du Nord.
Alors, quels sont-ils?
Quels sont-ils? Il y en a plusieurs. L'un des plus importants, c'est la dimension sociale populaire de l'écologie du Sud. L'écologie au Sud, c'est une question qui relève de la survie. C'est le rapport à la terre, ce sont des mouvements paysans. C'est le rapport à la dépossession. C'est, comme dans le cas de l'Inde, des barrages qui vont pousser sur les chemins de l'exil des centaines de milliers de personnes. L'écologie, elle a une dimension sociale, populaire, évidente, alors qu'au Nord, y compris en France, c'est souvent l'apanage des classes sociales moyennes aisées qui peuvent se permettre un supplément d'âme, pas au sens des alchimistes, mais au sens de donner du sens, mais sans toucher au mode de vie et au standing.
Ce qu'on pourrait appeler les beaux bio.
Si on veut.
Oui, et on voit souvent d'ailleurs que c'est dans les milieux ruraux où il y a plutôt une opposition en France. On l'a vu avec le barrage de Sivens et autres, qu'il y a souvent une opposition entre les milieux paysans et les milieux écologistes. C'est-à-dire c'est plutôt un clivage qu'on ressent.
Je pense pas, parce que les milieux paysans qui s'opposent aux écologistes, c'est pas les paysans, c'est les agro-industriels, c'est la FNSEA, parce que les petits paysans, comme la Confédération paysanne, ont massivement basculé dans la question de l'écologie. Les petits paysans sont écologistes. C'est plutôt les gros paysans, c'est tous les lobbies agro-industriels de la FNSEA qui sont dans la logique des barrages. Donc, je ne pense pas qu'il y ait du clivage comme
non,
ça.
C'est vraiment, je fais allusion à ça.
C'est plutôt, oui, mais entre l'agro-industrie et puis l'écologie, il y a un monde. Deuxième spécificité sur laquelle j'ai beaucoup insisté, c'est la dimension spirituelle de l'écologie du Sud. Dimension spirituelle, c'est-à-dire que dans les mouvements de mobilisation, que ce soit en Inde, au Brésil ou en Afrique, dans les mouvements de mobilisation, on va puiser dans l'imaginaire, dans l'humus culturel et spirituel, de quoi alimenter, de quoi soutenir des résistances. Les peuples Adivasi en Inde, donc les peuples autochtones, s'ils s'opposent à des multinationales qui vont extraire de leurs forêts et de leurs montagnes les minerais dont la technoscience a besoin en Occident pour les téléphones portables, par exemple, ils ne vont pas le faire d'abord au nom de la justice sociale, ils vont le faire parce qu'il y a un esprit ou il y a une déesse dans la montagne qui a été chassée par l'extraction industrielle. En Amazonie, les descendants d'Indiens et d'Africains, ou les métis qui sont donc au Brésil notamment, dans les États du Nord du Brésil, s'ils dénoncent le pillage de l'Amazonie, c'est pas d'abord, comme dans la perception occidentale, parce que l'Amazonie c'est le poumon biophysique de la planète où les arbres vont capter le CO2 et vont délivrer de l'oxygène, c'est pas d'abord ça. S'ils veulent protéger l'Amazonie, c'est parce que c'est un espace de vie où leurs esprits, leur
territoire sacré.
Voilà, c'est sous cet angle-là. C'est un territoire sacré. Donc on a une collusion dans les sociétés du Sud, dans les mouvements écologistes du Sud, entre la justice sociale et la justice écologique.
Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas majoritaires. Ils ont quand même beaucoup de mal par rapport au pouvoir politique, je veux dire, en place.
Tout à fait. Même dans le cas du Brésil, il y a tout un chapitre qui peut paraître assez macabre, qui est consacré à la répression de ces mouvements, de ces milieux, de ces militants écologistes, et notamment le nombre important de religieux et de religieuses au Brésil qui sont engagés dans les mouvements écologistes. Le mouvement des Sans-Terre brésilien, qui est le premier mouvement paysan, 5 millions de personnes, il est quand même né de la Commission pour la Pastorale de la Terre. Et dans ce livre, j'ai également consacré un chapitre au tournant écologique de la théologie de la libération, donc avec des figures comme Léonard de Boff, par exemple, qui ont, depuis une vingtaine d'années, incarné cette intégration dans le christianisme de l'écologie. Il y a également plusieurs pages sur l'islam cosmique, donc avec des expériences en Égypte et en Indonésie. En fait, dans toutes les religions, dans toutes les sociétés, potentiellement, on a les germes d'une écologie sacrée. L'enjeu, c'est, comme disait Aristote, c'est passer de la puissance à l'acte. Et donc, c'est d'actualiser ses potentialités. Et voilà, j'espère que ces deux livres...
Est-ce que vous savez que la première encyclique que va écrire le pape François est consacrée à l'écologie ?
Tout à fait, oui, très bien.
Ça va dans le bon sens. Voilà, aucun pape n'avait consacré une encyclique à l'écologie. Et sa première encyclique va être consacrée à l'écologie.
Et ça montre bien que les monothéismes ne sont donc pas contre.
Qu'ils évoluent. Qu'ils évoluent.
Oui.
C'est d'où l'importance pour les monothéismes de rendre visibles, voilà, de rendre visibles les actions au quotidien qu'elles élaborent. Mais pas simplement les actions, même sur le plan de la théologie. On a des théologies éco-chrétiennes, des théologies éco-musulmanes. Elles sont là, il y a de grandes figures. Il y a des Jean Baster, il y a des Fazlun Khalil, il y a des Sayyid Hassan Nasser. On a tout un aéropage de grands théologiens qui ont pensé, d'un point de vue monothéiste, la réconciliation de l'humain avec la nature. Voilà, ce sont des auteurs à livre.
Alors, on peut retrouver donc un certain nombre de ces auteurs et des philosophes aussi dans votre ouvrage, donc Nature vivante et âme pacifiée, aux éditions Arma Artis, et puis L'écologie vue du Sud, aux éditions Sang de la Terre. Merci beaucoup, Mohamed Taleb.
Merci Frédéric et merci Lily.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lilian Var. La semaine prochaine, nous nous rendrons chez Denise Desjardins, chez elle en Ardèche. Elle nous parlera de son cheminement vers l'éveil. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.